D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Zoulou, Zoulou, quel drôle de nom. Pourquoi pas libellule ou papillon ? Zoulou, dans le secret professionnel de cette semaine, c'est un objet. J'ai peu parlé d'objets. Ils accompagnent pourtant nos vies. Que serait un homme sans eux ? Même le plus intransigeant des anachorètes a un objet, que ce soit sa robe, son chapelet ou la coupelle en terre dans laquelle il boit de l'eau de pluie. Dans toutes les distinctions qu'on aimait faire au XVIIIe siècle entre l'homme et l'animal, on disait « l'homme a le rire, l'animal ne l'a pas ». L'homme a la possibilité de projeter sa pensée dans l'avenir, l'animal ne l'a pas. Admettons, je ne crois pas qu'on ait pensé à dire « l'homme a l'objet, l'animal ne l'a pas ». D'ailleurs, quand il croit aimer l'animal en le domestiquant, l'homme lui donne des objets, une niche, un joli collier, un os en plastique, ce qu'il appelle des jouets, et qui ne sont pour l'animal que le moyen de passer sa rage ou son ennui. Ah oui, c'est bien ça, des jouets. Pour les enfants, c'est pareil. En passant à l'âge adulte, l'homme change d'objet. L'un d'eux me semble faire charnière entre l'âge des objets d'enfant et l'âge des objets d'adulte. Cet objet est un des premiers objets d'adulte qu'on donne à l'enfant, et c'est le porte-monnaie. Le porte-monnaie, ça veut dire tu accèdes à l'argent si peu que ce soit, c'est-à-dire à l'indépendance, et l'enfant est très fier. Il veut du reste un porte-monnaie ressemblant à celui de l'adulte, pas en plastique avec un Mickey dessus, non non, en cuir sérieux comme papa. Un de ces porte-monnaies, c'est le Zoulou de la maison Hermès. Je l'ai choisi parce qu'il n'est pas un objet cliché de chez Hermès, comme le sac Kelly, dont on nous parle tant qu'on finit peut-être par ne plus le remarquer. C'est un classique, très ancien, mais pas tapageur. En posséder un n'est pas symbolique d'une appartenance à je ne sais quel code social, mais le plaisir de posséder un objet ingénieux, utile, beau. On ne rencontre pas de Zoulou dans les œuvres d'art. Par exemple, dans The Queen de Stephen Frears, qui montre la reine d'Angleterre couverte du soir au matin de carrés Hermès. Qui donc ouvre un porte-monnaie Zoulou dans un film ou dans un roman ? Il va falloir y penser. Je reçois, pour en parler, Couli Jobert, qui est directrice de la création du métier maroquinerie-sellerie chez Hermès. Pour commencer, Couli Jobert, voudriez-vous nous décrire très exactement ce porte-monnaie ?
C'est un objet plié, mais plié comme un origami un peu, on peut dire ça.
C'est un carré ?
C'est un carré. C'est original chez Hermès parce que ça relie avec le carré, la soie.
Donc c'est un carré en cuir ?
C'est un carré en cuir qui est façonné sans couture. Il est plié, c'est comme une feuille blanche, une feuille rectangulaire, qu'on plie, qu'on colle, on le moule.
Donc c'est un carré,
c'est une boîte
qui se, c'est une boîte
qui se plie.
Voilà.
Un peu, moi je dirais un peu comme les boîtes de pâtissier aussi qui se plient. On pourrait avoir une forme de Z quelque part. Est-ce que le mot Zoulou vient de là ? Je ne sais pas.
Il ressemble un peu aux objets, aux porte-monnaies qu'on voit à Marrakech tout simplement.
Mais oui. Hein ? Mais est-ce que vous savez, pour moi, c'est des souvenirs d'enfance.
Ah
je vais
bon
vous raconter ma vie.
Mais bien sûr.
Moi, j'ai un grand-père qui était au Maroc, qui est parti dans les années 16, je crois, au Maroc. Il s'est retrouvé colon avec des terres. Il revenait tous les ans l'été et il nous ramenait des petits Zoulous. Et ces petits porte-monnaies magiques, pour moi, sont les porte-monnaies marocains.
Alors justement, Camille Renard s'est rendue aux ateliers Hermès à Pantin. Elle y a rencontré les artisans de l'atelier de la petite maroquinerie qui lui parlent précisément de la fabrication du Zoulou, la transmission du savoir-faire, leur rapport intime aux outils, en un mot, leur secret de fabrication.
Ça fait 25 ans que je travaille pour Hermès. Et toujours à la petite maroquinerie, je ne l'ai pas quittée. Donc voilà, donc là actuellement, je fais des Zoulous. Si vous voulez, c'est que de l'origami. Voilà, c'est que du pliage, collage, pliage, et c'est tout. On n'a pas affaire à d'autres termes de métier comme l'asticage, la couture, il n'y a rien du tout. C'est que du pliage, donc vraiment, oui, de l'origami. Voilà, je reçois ma pièce telle qu'elle, c'est-à-dire c'est juste un grand rectangle et deux petits carrés. En réalité, il n'y a que trois morceaux pour réaliser le Zoulou. Ensuite, une fois que j'ai cette pièce, je vais aller la coller en deux. Comme ça, je vais aller la coller. Et ça va être tout un travail qui va être après deux pliages, qui va arriver à aboutir à un cube. Un cube qui va être travaillé, plié, en quatre, un petit carré, et ensuite monter sur un moule final pour poser le fond et l'extérieur dessus. Voilà. Une fois fini, c'est là où va vraiment commencer le travail d'origami. Donc là, comme il est là, je vais faire tout un pliage extérieur, de coin à coin. Voilà, comme ceci, là, bien plié. Et la chose la plus importante, il faut vraiment respecter toutes les parallèles de votre cube. Après avoir fait mon premier pliage, j'ai mes mains, elles sont en tension. J'arrive, je tremblote un petit peu parce que bah, il ne veut pas se laisser faire. Et vu que c'est moi qui décide, et ben, j'ai un petit peu de mal à aux mains à la finale. Donc je tape un premier pliage.
Vous vous souvenez de la première, d'un premier ustensile qui est très important pour vous et que vous avez gardé? La première fois que vous l'avez reçu, c'était un moment important?
Disons qu'on reçoit un outillage lorsqu'on arrive, un outillage, disons, basique, marteau, pince à coudre, haleine, disons l'outillage traditionnel d'Hermès. Et ensuite, on collecte, c'est-à-dire de personnes qui partent à la retraite, on va récupérer leur outillage, on chine, on va dans les brocantes, on achète des petits outillages. Donc beaucoup, il y a d'autres métiers, d'autres corps de métiers, comme par exemple, ça paraît un petit peu dingue, mais un dentiste, il a beaucoup de tout petits outillages, tout petits, et ça nous permet aussi de travailler avec des outils très fins sur, bah, par exemple, des petits montages, des petites parures, voilà. Il faut que les côtés du fond soient vraiment, on ne voit pas de différence entre le corps et le fond. Il va venir se coller, on verra aucun signe d'épaisseur de cuir. On ne verra rien du tout à la finale. Donc ce petit outil qui va nous arriver à la finesse, eh bien c'est le couteau à parer. Après, avec un petit ustensile aussi qui est précieux, c'est un plioir. Généralement, c'est de l'os, un plioir en os. Et je vais venir le tapoter gentiment pour ne pas écraser le grain de la chèvre. Donc je vais venir doucement venir le taper tout le tour. Et la colle blanche va faire son travail en le collant, en adhérant, en soudant bien la petite parure que j'aurais faite avec mon couteau. Donc comme ça, on ne verra strictement rien du tout. Et ça fera une très jolie pièce.
Vous faites un objet, Laurence, du début à la fin.
Oui, tout à fait. Oui. Oui, tout à fait.
Alors, Couli Joubert, je voudrais revenir vers cette histoire, vers l'histoire de la maroquinerie dans votre maison. Parce que je crois que chez Hermès, ce qui est important au départ et ce qui est prestigieux, c'est la sellerie.
Oui, tout commence artisan, Hermès, artisan, sellier, avec les harnachements pour les attelages. C'est là le début d'Hermès. Et puis petit à petit, les attelages laissant la place à l'automobile, on a commencé à faire des malles, des sacs de voyage, et de fil en aiguille, on arrive à
la petite maroquinerie. Alors, en enquêtant, en préparant cette émission, j'ai appris que le premier portefeuille de votre maison était en peau de porc, que ce porc avait de la chance, et qu'il date de 1919, et que dans les archives d'Hermès, quelqu'un avait dit que c'était un objet qui devait être montré dans les petites vitrines, non pas dans la grande vitrine, car c'était un objet pour maroquineux. Donc, il y a une espèce de séparation du travail, semble-t-il, où il y avait chez Hermès, entre les selliers qui seraient le métier noble et les maroquiniers qui seraient... Est-ce que ça continue? Parce que vous cumulez les deux fonctions,
oui,
n'est-ce pas?
Oui, moi je m'occupe aussi de l'équitation, donc de la sellerie.
Voilà. Et donc, est-ce que vous avez, parmi les gens qui travaillent avec vous, à gérer des jalousies, des concurrences?
Non.
Dites-le-moi.
Non.
Non.
Non, non, parce que je dirais que la maroquinerie, maintenant, chez Hermès, c'est une magie. C'est un métier très noble. Chaque artisan vous parlera de son métier avec une émotion dans la voix. C'est vraiment un métier magique. Moi, je pense que l'artisan fait tout, le créateur fait un petit peu, mais le créateur sans l'artisan, il ne fera rien. Et la magie vient du travail de la main.
Expliquez-moi un peu comment vous êtes vous-même passé de la sellerie à la maroquinerie.
Je vais vous dire, je suis passée de... Je n'ai jamais fait de maroquinerie et je n'ai jamais fait de sellerie avant de le faire chez Hermès.
Ah
c'était
bon
un vrai challenge.
Et quelle est votre formation alors ?
Je n'ai pas fait beaucoup d'études, je l'avoue. Je dirais que je suis une touche à tout.
Et alors, comment c'est Hermès qui est venu vous chercher ? Comment ça s'est passé ?
Oui et non, j'ai un peu frappé à la porte. Et puis, j'avais travaillé 4 ans avec Martin Margiela. J'étais son assistante quand il faisait la collection pour Hermès. Et puis, quand un créateur s'en va, son assistant s'en va, ce qui est normal. Donc, il s'est passé un peu de temps. J'ai monté ma petite entreprise d'accessoires pour chiens, d'un concept store pour animaux. Et puis, j'avais toujours un peu cette envie de faire quelque chose pour Hermès. Je dois dire qu'on a un peu le même ADN de qualité, d'objets simples, évidents. Et je suis retournée frapper à la porte en disant « Coucou, j'ai des sacs à vous proposer. J'avais dessiné des sacs. Est-ce que ça vous intéresse ?» Et puis...
Et alors, directrice de la création, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous passez votre temps à dessiner des nouveaux objets ou est-ce que... Comment ça se passe ? Est-ce que vous proposez en permanence des nouveaux objets à la maison ?
Pas en permanence. La création, c'est aussi la couleur. Trouver la bonne matière, la bonne expression d'un objet aussi. Vous pouvez créer un objet, mais il faut qu'il soit évident. Il faut que tout de suite, il y ait une logique dans l'objet. Donc ça, c'est des discussions aussi avec le métier, avec les artisans. Est-ce qu'on peut faire comme ça, pas comme ça ? L'idée, finalement, c'est assez simple. Mais la rendre Hermès et la rendre, jolie, logique, qualitative, et qu'elle reste dans le temps, parce que le but, c'est que cet objet... ne fasse pas qu'une saison, mais fasse 5, 10, 15, 20 ans peut-être. C'est le souhait, même 100 ans, je dis. Ça amuse beaucoup les gens. Et ça, c'est très compliqué.
Alors, il y a une chose qui m'intéresse aussi dans cet objet-là, c'est qu'il est un peu paradoxal, me semble-t-il, par rapport à ce qu'est Hermès d'habitude. C'est-à-dire que moi, très naïvement, quand on me parle d'Hermès, j'entends des mots comme Piquet-Sellier, enfin Anne de Biran qui fait les recherches pour nous dans l'émission. On m'a donné un vocabulaire de la maroquinerie qui est presque aussi long qu'un grand Robert. Et donc, voilà, Piquet-Sellier, des choses comme ça. Et là, pas du tout, il n'y a pas de piqûre, c'est d'une simplicité... Mais... Et comment est-ce qu'on peut réussir à fabriquer une chose pareille ?
Alors, je dirais que Piquet-Sellier, c'est l'évidence, ça vient de la sellerie. Mais chez Hermès aussi, c'est l'objet parfait. Il n'est pas obligé d'être toujours Piquet-Sellier. On fait des sacs retournés. Enfin,
qu'est-ce que c'est un sac retourné ?
Par exemple, le Kelly, vous le fabriquez et vous le retournez. Vous le fabriquez à l'envers.
Ah bon ?
Et vous le remettez à l'endroit.
Et ça sert à quoi ?
Oh, ça, c'est les secrets de fabrication, monsieur.
Ah, mais vous êtes là pour là, madame.
Je ne vais pas vous donner toutes les recettes.
Ah, voilà. Il faut retourner un sac pour qu'il soit beau.
Pas tous, certains. Chez Hermès aussi, c'est l'objet simple. Évident, tellement il est simple. On ne cherche pas à rajouter, à cacher par beaucoup de choses. Et voilà. L'objet est simple, évident. Et puis, il faut une grande maîtrise pour le fabriquer. Ce n'est pas si facile.
Je crois qu'il y a aussi une chose chez Hermès qui compte, c'est la récupération. On m'a raconté quand je préparais cette émission que les chutes, ça compte. C'est-à-dire que je crois que pour fabriquer un Kelly dont vous parliez tout à l'heure, il faut un crocodile entier et que donc il y a des chutes de cuir. Mmh. Et que donc, en grande partie ou en partie, le Zoulou vient aussi de la récupération. Donc je crois que je vais beaucoup vous choquer, mais j'ai un peu l'impression que le Zoulou, c'est le hachis parmentier de la maison Hermès. On récupère.
Je ne suis pas choquée. Je trouve qu'il ne faut pas de gâchis, monsieur.
Et voilà, c'est ça.
Je pense que... Non, mais c'est important. Le croco est une telle belle matière que ça serait dommage d'en perdre une partie.
Tout ça, ça veut dire que c'est une énorme maison, Hermès, mais qui a gardé encore des réflexes d'artisanat. Ou je me trompe ?
Oui, c'est une maison artisanale avant tout.
C'est pour ça qu'il faut tellement de temps quand on passe une commande pour obtenir sa commande ?
Oui.
Parce que c'est encore fabriqué.
C'est fabriqué, on prend son temps, on le fait bien, on ne travaille pas dans le rush en disant vite, 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 on fait. Non, ça n'existe pas. On fait bien son travail.
Est-ce que le Zoulou, pour vous, parmi tous les objets de petite maroquinerie que vous gérez, que vous dirigez, comment est-ce que c'est un de vos préférés ? Est-ce que vous préférez, je comprends bien que c'est une question un peu générale et à laquelle vous pouvez difficilement répondre, mais comment est-ce que vous le qualifiez parmi tous les autres objets de maroquinerie qui sont sous votre coupe ?
Moi, je dirais que c'est un objet affectueux. On le prend, on le tripote, on l'ouvre, on le ferme.
Il y a quelque chose d'un peu amusant aussi,
il
non
il est amusant, côté, voilà, il est vivant. Je trouve qu'un porte-monnaie, à part porter de l'argent, c'est jamais très... Là, c'est comme s'il vous parlait un peu. Est-ce que quand on ouvre, on ferme, est-ce que c'est une bouche qui raconte des choses ?
Ah oui. Nous allons maintenant entendre deux sons d'archives, l'un de 1954 où l'on nous explique comment devenir vendeuse chez Hermès et un autre de 1984 avec une liste de cadeaux de Noël de chez Hermès.
Lundi.
Non.
Mardi.
Non.
Mercredi.
Non.
Jeudi.
Oui.
Aujourd'hui, mesdemoiselles les écolières, nous recevons à notre micro mademoiselle Pascale qui est vendeuse chez Hermès. Alors elle va s'entretenir avec vous de sa profession.
Moi, je voudrais d'abord savoir s'il faut avoir une formation spéciale et s'il y a des écoles spéciales.
Non, pas pour être vendeuse, il ne faut pas d'études spéciales, non. Il faut simplement être un petit peu psychologue et ça, on ne l'étudie pas, on l'est ou on ne l'est pas, c'est tout.
Faut-il savoir plusieurs langues ?
En général, oui.
Mais vous, est-ce que vous parlez plusieurs langues ?
Je ne parle que l'anglais. Hélas, j'apprends l'espagnol, mais enfin, je ne le parle pas encore très bien.
Mais comme c'est un grand magasin, comment peut-on y rentrer ? Parce qu'il n'est pas permis.
C'est très
à
facile
vendeuse.
Par la porte, comme dans tous les magasins.
Oui, mais pour
rentrer vendeuse. Comme vendeuse. Eh bien, oui, c'est assez difficile.
Qu'est-ce qu'on demande ?
Eh bien, il faut quand même un minimum d'instruction, évidemment.
Et qu'est-ce que c'est, ce minimum ?
Eh bien, il n'est pas nécessaire d'avoir ses bacs. Mais enfin, il faut quand même avoir un certain degré d'instruction. Il ne demande rien de particulier, remarquez, à part justement de savoir parler plusieurs langues.
Eh bien, nous vous remercions beaucoup, mademoiselle Pascale, et nous espérons que beaucoup de nos jeunes auditrices ont été intéressées par cette profession et s'y orienteront.
Bien, je suis allée Faubourg Saint-Honoré, chez Hermès. Alors là, il y a plein d'idées, chic, chic. Écoutez ce que m'a proposé Pierre Fontanet.
Je vous propose, pour inciter une femme à faire du sport, une tenue de jogging qui est réalisée en soie et en cachemire. Et puis nous pouvons vous proposer, si elle dispose d'une maison de campagne, un tablier de jardinage avec des gants et un chapeau. Nous pouvons également proposer un très joli sécateur pour rosier, qui est doté d'un manche en ivoire.
Vous croyez que ça peut s'offrir ?
À la condition d'obtenir de la personne une pièce d'un franc, c'est pour éviter de couper l'amitié. Nous avons également des étuis à chewing-gum, soit en marocain, soit même en crocodile.
Cette petite boîte, qu'est-ce que c'est ?
Mais cette petite boîte, comme vous la voyez, elle est ronde, elle est réalisée en boxcalf, elle est très jolie de forme, c'est surtout un objet, bien sûr.
Je me demande bien à quoi elle sert ?
Eh bien, pour mettre des morceaux de sucre, pour les chevaux. Souvent, quand la propriétaire de chevaux visite son écurie, elle aime donner un sucre.
Dans ce même ordre d'idée, qu'est-ce que c'est ?
Alors,
objet en or.
Voilà. Alors, cet objet en or, bien naturellement, c'est une chose aussi délicate à offrir, c'est un cure-dent. Mais c'est un très joli cure-dent, comme vous pouvez voir. Il se ferme dans un étui, il se rentre dans un étui qui est guilloché. C'est en or, c'est un très, très joli travail.
Pourquoi pas offrir un cure-dent ?
Alors, nous avons aussi du cirage.
Comment offrir du cirage ?
Eh bien, oui, mais pourquoi pas, puisque nous en vendons.
Vous pensez que ça peut s'offrir ?
Moi, je le crois, dans une jolie boîte Hermès. On peut même ajouter un petit chiffon. Et puis, c'est un joli cadeau.
Thank you.
dites-moi, Coolie Jobert, est-ce que on n'est pas au bord de la décadence viscontinienne avec la boîte à sucre pour chevaux ?
Pas du tout, c'est un petit objet magique.
Qui existe encore ?
Qui existe encore, et que même pour l'équitation, j'avais transformé en grande boîte pour mettre le nécessaire pour soigner son cheval.
Pour sortir de la boîte à sucre des chevaux et en revenir au Zoulou, Coolie Jobert, je voudrais savoir, parce que c'est une information très importante que nous n'avons pas dite, si c'est un objet pour homme ou un objet pour femme.
Moi, je crois qu'il est mixte. Et chez Hermès, il y a beaucoup d'objets mixtes.
Par exemple,
je trouve le sac Evelyne va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Tout dépend sa taille. Par exemple, le cabaye Trivière. Il est pour moi aussi bien masculin que féminin.
Alors dites-moi, je crois qu'une des démonstrations du succès d'un objet, ce sont ses déclinaisons. Est-ce que le Zoulou a été décliné sous d'autres formes d'objets en dehors de ces très simples porte-monnaie que nous voyons
oui,
là ?
Oui, on en a fait une taille plus grande, qui n'avait pas exactement la même fabrication.
Pourquoi ?
Parce qu'il est en Barenia.
C'est une espèce de cuir.
C'est le cuir aussi. Vous avez le box, le barigna. Ce sont les deux cuirs magiques de chez Hermès. On ne pouvait pas le faire d'une pièce parce que ça prenait une trop grande levée.
Qu'est-ce que c'est qu'une levée ?
La levée, c'est la taille de la peau et la place que l'objet prend sur la peau. Et si on l'avait fait dans la technique juste plier sans couture, ça prenait trop de peau d'un seul coup.
D'accord.
Voilà.
Donc c'est pour ça que celui-ci, contrairement à l'autre...
Je pense que c'est pour ça qu'on a fait
D'accord.
ça. Et puis ça existait à l'art de vivre, où il y avait un vide-poche.
Un vide-poche Zoulou ?
Zoulou, oui.
C'est-à-dire ?
Je pense qu'il s'appelait Zoulou. Il y avait un carré en chêne, en bois, donc, et dessus fixé le porte-monnaie Zoulou, qu'on pouvait ouvrir ou fermer. Et c'était un vide-poche... Et aussi, il y a un sac de plage en toile sur ce système.
Qui se ferme et qui devient tout plat comme une enveloppe aussi.
Voilà.
Dites-moi, donc on était en train de parler d'un objet très simple, petit, qui est probablement d'ailleurs un des moins coûteux de chez vous, non ? Est-ce que vous avez une idée du prix ?
Il faut vous méfier.
Ah bon ?
Ce qui semble pas coûteux, souvent, est deux fois plus cher. La simplicité coûte très cher.
Donc en fait, ça veut dire que le Zoulou coûte très cher ?
Non, il est coûteux.
J'ai appris que la fermeture éclair, qui avait été inventée au Canada pendant la Première Guerre mondiale, est arrivée en France par Émile Hermès, qui était le propriétaire alors de la maison, et qu'il en a eu l'exclusivité en 1923 pour la France. Et je crois qu'à ce moment-là, il l'a mise partout. Donc ça, c'est une chose dont je voudrais vous demander si elle n'est pas contradictoire avec cette idée de chic, de soin et de tradition qui est si prégnante chez Hermès. Tout d'un coup, la fermeture éclair.
Vous avez oublié un mot, pratique.
Ah.
Et c'est pratique et novateur, parce que Hermès est novateur aussi. A toujours cherché, même s'il est traditionnel, a toujours cherché des formes d'expression nouvelles. Toutes les générations ont été très souvent des curieux.
Et comment est arrivée la fermeture éclair dans la maroquinerie ?
Mais écoutez, Thierry Hermès l'avait mis sur un très joli sac qui s'appelle le bolide et qu'il avait offert à sa femme. Dans les années 20. Et il y a une photo de Julie Hollande avec son bolide. Petit, très joli, où elle tricote calmement à côté de son sac qui est d'une modernité incroyable pour les années 20.
Alors, à propos de modernité, est-ce que vous avez créé... Voilà, nous parlons de ce Zoulou qui est un objet pour porter peut-être la chose la plus ancienne du monde, qui est la monnaie. Mais est-ce que vous créez, vous, des objets pour des choses nouvelles ? Est-ce que vous avez créé des objets pour, je ne sais pas quoi, les iPads ?
Oui,
oui,
oui, oui, les iPads, les iPhones, les BlackBerry,
Donc ça, ça veut dire que vous n'êtes pas paralysé par l'idée de tradition ?
Non, mais la tradition s'inscrit... dans la modernité aussi. Enfin, je trouve que ce n'est pas incompatible.
De manière très pratique, expliquez-moi comment vous organisez votre travail dans la... Puisque nous parlons du Zoulou, dans la petite maroquinerie, vous avez une énorme équipe. Quelle est la quantité de personnes d'abord qui travaillent avec vous ?
Alors, dans le studio, on est très peu nombreux. J'ai un très petit studio et tout le monde fait aussi bien de la maroquinerie que des sacs, que les bagages.
Que la sellerie aussi ?
La sellerie, c'est un peu à part. C'est, d'abord, la sellerie, il y a beaucoup moins de développement. On ne change pas une selle tous les jours. La sellerie, c'est aussi les vêtements. Il y a une mini collection de vêtements pour monter à cheval. Je dirais que le studio n'est pas très grand. Et il y a un maquettiste qui monte les formes, les volumes. Et puis après, je travaille avec le métier à Pantin.
Donc ça veut dire, dans votre studio, ce sont des gens qui dessinent avec vous,
oui,
c'est ça
est
qui...
trois.
Trois, ah oui. Oui.
Trois, mais on travaille aussi avec des gens extérieurs. Mon travail, ce n'est pas toujours de dessiner, ça peut être de faire travailler telle personne ou telle personne à l'extérieur, parce que j'aime bien le style, ça convient avec ce qu'on veut exprimer. On peut faire travailler une main spéciale, un style pour tel objet.
Est-ce que vous êtes tenu de fabriquer un certain nombre d'objets dans l'année ?
Oui, mais si on n'y arrive pas ou si on fabrique plus, enfin si on crée plus, c'est pas grave, parce que d'une saison sur l'autre, on peut reporter. Quelquefois, on met une saison, deux saisons, trois saisons pour sortir un objet, un sac ou une petite maroquinerie, parce que ça demande du temps et ça doit être parfait. Et comme par essence, c'est intemporel, donc qu'on le sorte là tout de suite ou dans un an et demi, il sera toujours actuel. S'il n'est pas actuel, c'est qu'on s'est trompé.
On pourrait croire que le mot de Zoulou pour désigner un porte-monnaie dans les années 20, c'était « banania », un nom condescendant, à connotation légèrement raciste. Or, c'est le contraire. Il aurait été donné pour des raisons historiques et familiales par Robert Dumas, qui l'a peut-être dessiné. Robert Dumas descendait de pasteurs ayant vécu au Lesotho. Ils étaient régulièrement attaqués par les Zoulous. Un autre homme qui a été attaqué par les Zoulous à la même époque, mais qui lui en est mort, c'est le prince impérial, fils de Napoléon III. C'est à cause de Napoléon III, d'une certaine façon, qu'Hermès s'est installée rue du Faubourg Saint-Honoré. Jusque-là, elle se trouvait dans une rue, où est aujourd'hui l'Olympia, une de ces rues étroites et propices au rassemblement, d'où étaient parties les émeutes de 1848. Napoléon l'avait fait supprimer, comme tant d'autres, par le baron Haussmann dans son plan de réorganisation de la ville, afin de l'empêcher de se soulever à toute occasion. Exilée en Angleterre, l'impératrice Eugénie fait enrôler son fils dans l'armée anglaise. Il demande à être envoyé dans les troupes britanniques d'Afrique australe. La reine Victoria, qui avait bien pris soin de ne pas se porter au secours de la France alliée de l'Angleterre 8 ans auparavant, autorise cet héritier gênant à partir. C'est ainsi qu'au Natal, à l'âge de 23 ans, le prince impérial est tué de 23 coups de sagaie. Par un jeu de donation et de succession, des objets lui appartenant sont arrivés dans les collections du musée Hermès, rue du Faubourg Saint-Honoré, à quelques mètres des Tuileries où il était né. Ces objets, ce sont des jouets. C'était Secret Professionnel, le 35e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel du Grand Palais. Réalisation, Clotilde Pivin. Reportage, Camille Renard. Attaché d'émission, Anne de Biran. Recherche INA, Arnaud Plançon. Prise de son, Alain Joubert. Dans un instant, Carnet nomade de Colette Felouse.